RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, suite de notre série de grands reportages consacrés cette semaine aux principaux candidats à la présidentielle en France. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, qui est entré presque par effraction dans la campagne présidentielle face à des candidats établis, il a joué la carte du renouvellement, plus jeune, jamais élu, sans parti, mais avec la conviction d'être en adéquation avec les attentes des Français déçus de la politique. Il a lancé un nouveau mouvement qui a les mêmes initiales que lui, EM pour En Marche, et qui en quelques mois a rassemblé 200 000 adhérents. Il s'est emparé d'un créneau longtemps convoité par d'autres, ni à droite ni à gauche, un peu des deux côtés. Il a pris son envol, laissant François Hollande, qui lui avait mis le pied à l'étrier seul à l'Élysée. Il est aujourd'hui en position d'être celui qui peut prétendre lui succéder comme président de la République. Emmanuel Macron, en marche vers l'Élysée, un grand reportage de Valérie Gasse.
Est-ce que vous êtes président ?
Non. Quelqu'un dit
je suis candidat.
C'est un instant de campagne. Emmanuel Macron est au Mureau, en banlieue parisienne, dans une école primaire. Il se prête au jeu des questions.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire
qu'il est bientôt en cours.
Alors, ça c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que vos parents...
Tu participes.
Ça veut dire que vos parents, ils vont voter au mois d'avril et au mois de mai pour élire un président.
Il y a qui dedans ? Il y a qui ?
Il y a beaucoup de monde.
Alors c'est moi la reine. Il a moi.
Brigitte doit avoir des problèmes.
Oui, là, je suis marié quand même.
Emmanuel Macron prend son temps, s'amuse. Nous sommes au mois de mars, le premier tour est dans quelques semaines. Retour en arrière il y a un peu moins d'un an, quand tout a commencé. Le 6 avril 2016, à Amiens, sa ville natale, Emmanuel Macron prend tout le monde de court. Il annonce la création d'un nouveau mouvement politique, En Marche.
J'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique. Un mouvement politique nouveau. C'est-à-dire un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche.
Oui, il est temps de se mettre en marche.
Le 12 juillet, Emmanuel Macron réunit 3000 marcheurs à la Mutualité à Paris. Il montre qu'il n'est pas seul.
Notre rassemblement, ça n'est pas un rassemblement pour plaire. C'est un rassemblement pour faire, pour avancer.
Oui, il est temps de se mettre en marche.
Le 30 août, Emmanuel Macron quitte le gouvernement. Il coupe le cordon avec François Hollande. Désormais, il est libre.
J'ai présenté cet après-midi au président de la République ma démission du poste de ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique.
Oui, il est temps de se mettre en marche.
Le 16 novembre, Emmanuel Macron met fin au vrai faux suspense sur sa candidature. Cette fois-ci, il est officiellement en marche vers l'Élysée.
La responsabilité du président de la République est immense. J'en suis pleinement conscient. J'y suis prêt. C'est pourquoi je suis candidat à la présidence de la République.
Oui, il est temps de se mettre en marche.
Quelques mois plus tard, lors d'un trajet en train au retour de Bordeaux, il confie les raisons qui l'ont amené à cette décision.
À quel moment, dans un cheminement comme le vôtre, qui est assez particulier en politique, vous l'avez souvent dit, on arrive à cette bascule qui fait qu'on se dit « je peux être président de la République ».
C'est un processus de cristallisation, comme dirait Stendhal, qui est progressif. Pour moi, il s'est fait à l'automne dernier. À la fois parce que j'ai eu le sentiment vraiment de comprendre très intimement et profondément ce qui était en jeu, ce qui était en train de se transformer, et quelles étaient à la fois les aspirations et les inquiétudes profondes de notre pays. Et en même temps, parce que je m'en suis senti la volonté, la capacité.
Est-ce que c'est aussi parce que vous disiez qu'il n'y avait personne d'autre, dans votre camp entre guillemets, qui pouvait y aller et assurer ?
Vous savez, aujourd'hui, certains se tournent vers nous avec en effet cet état d'esprit. Mais vous me reconnaîtrez une chose, c'est d'être parti dans la bataille bien avant tout cela. J'ai décidé de quitter le gouvernement alors que rien n'était déterminé. Beaucoup pensaient que le président de la République se représenterait. Et je me suis déclaré candidat alors que la primaire de la droite n'était pas terminée. Et bien évidemment que la primaire de la gauche n'avait pas donné de résultat puisqu'elle n'avait pas commencé. Et donc dans ce contexte, je n'ai pas choisi d'être candidat en fonction de ce qui existait chez les autres. Par contre, j'avais pleinement conscience, et beaucoup le niaient, que la droite et la gauche n'étaient plus en capacité de porter quelque chose de signifiant pour le pays. Parce que ces deux grands partis sont fatigués. Parce que ces deux grands partis sont aujourd'hui en train de se perdre dans leur propre division.
Un constat qui l'a poussé à se lancer et à proposer le renouvellement d'abord de la méthode. À Strasbourg, en meeting, alors qu'il n'est pas encore candidat, il nargue les tenants de la vieille politique.
Je pourrais ici vous faire des propositions. Vous donner tout de suite les conclusions. Je pourrais vous dire, on va faire voter telle ordonnance, on a tout préparé, regardez, c'est là. Mais on fait ça depuis 30 ans, 40 ans. Il faut bien d'abord commencer par écouter, par respecter, par considérer la voix de nos concitoyens avant de travailler et de proposer.
C'est le temps du diagnostic. Après la grande marche durant laquelle les adhérents de son mouvement sont allés frapper aux portes des Français des questionnaires à la main, Emmanuel Macron engage sa campagne sûr de son fait, même quand on l'interpelle, lui l'ancien ministre, mais surtout l'ancien banquier.
Monsieur Macron.
Tout ce que j'ai fait auparavant m'aide. La philosophie m'aide tous les jours. Avoir fait l'ENA, ça m'aide dans la compréhension de l'État. Avoir travaillé à Bercy comme fonctionnaire pendant 4 ans m'aide. Avoir fait 3 ans et demi de banque d'affaires m'a beaucoup aidé quand j'étais ministre. Et puis avoir été au cabinet du président de la République et ministre de la République m'aide aussi beaucoup.
Emmanuel Macron se prend au jeu de la campagne. Pour son deuxième meeting au Mans, il prononce un discours fleuve près de 2 heures. Il se positionne sur l'échiquier politique.
Le système dans lequel nous vivons, c'est un système de l'uniformité qui produit de l'injustice. Et si c'est cela, notre système, alors oui, je suis contre le système.
À Montpellier, dernière étape du diagnostic, Emmanuel Macron s'attaque aux questions sensibles.
Et aujourd'hui, le problème, ça n'est pas la laïcité. Non, le cœur du débat qui est posé à notre société, il faut le regarder en face, c'est l'islam. Est-ce que notre République est suffisamment adulte pour décider d'intégrer pleinement l'islam en France, de lui donner sa place? Où voulons-nous céder à celles et ceux qui nous promettent le pire?
Le cadre est dessiné. Emmanuel Macron dit qu'il veut libérer la France et protéger les Français. Il publie un livre « Révolution » et assure le service après-vente. Opération signature à la FNAC à Paris, un après-midi du mois de novembre.
C'est un livre projet. C'est-à-dire que ce qui est essentiel, c'est d'abord d'expliquer qui on est, quelle est la vision qu'on a du pays. Ça fait trop d'années qu'en France, on vote contre quelque chose. Je veux qu'on vote pour le projet que je porte.
Pour la révolution.
Pour la révolution, exactement. La révolution démocratique, vous l'avez compris.
Un livre projet, mais aussi une opération de communication bien huilé.
Marketing, alors ça, c'est super bien fait, je reconnais. Hein. De toute manière, il a un boulevard devant lui. Alors,
Qu'est-ce que vous pensez de cette quatrième de couverture avec sa photo?
Très bien, mais vous savez, c'est pour les femmes, ça.
Et ça marche.
Et voilà.
La campagne monte en puissance jusqu'au 10 décembre. Le candidat fait une démonstration de force, porte de Versailles à Paris devant plus de 10 000 personnes. Avant l'entrée en scène d'Emmanuel Macron, les militants sont déjà conquis.
Je pense qu'il peut rassembler des gens de tous les partis finalement, de toutes les tendances. C'est peut-être ça qui va le faire gagner.
C'est une toute autre vision qui n'est pas un programme politique mais qui est effectivement un axe de société. C'est ce qui m'a passionné.
Je trouve que Macron justement il a un petit truc en plus. Il a compris la nouvelle ère qui est en train de se créer. Il est super concerné par les problématiques numériques. Et même au niveau de la communication, on peut le voir ici, c'est super développé, c'est dynamique, il y a un aspect beaucoup plus jeune.
Aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui représente l'avenir, clairement.
Il va de l'avant, il est progressiste, on en a marre de la politique actuellement, il faut changer le système.
C'est un Emmanuel Macron presque grisé qui prend la parole.
Je veux être le candidat de la justice. Je suis le candidat du travail. Si on veut protéger les Français, oui! Nous devons être européens.
Mais la véritable envolée, c'est à la fin.
Ce projet, je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet.
Exalté, il en perd presque sa voix. L'image, souvent parodiée, n'en finit pas de faire le tour des réseaux sociaux. Aujourd'hui, Emmanuel Macron en plaisante, mais il a appris à poser sa voix en travaillant avec un chanteur d'opéra. Emmanuel Macron est devenu un candidat sérieux. Ses adversaires voulaient croire qu'il n'était qu'une bulle médiatique. Le politologue constitutionnaliste Olivier Roucan n'est pas de cet avis.
Non, mais assez rapidement, d'ailleurs, on s'est bien rendu compte que derrière En Marche, il y avait quand même des gens, ce n'était pas uniquement des ordinateurs, qu'ils venaient assez nombreux dans des meetings, ce qui ne s'était quand même pas produit depuis assez longtemps, et que toutes les forces classiques ne sont pas en mesure parfois d'obtenir une telle présence. Donc, à partir de là, ça n'était plus déjà une bulle spéculative. Quand on a des déplacements physiques, c'est qu'il y a du concret. Et alors, en plus, bon, il y a les intentions de vote. Et puis, maintenant, il y a des débats qui se déroulent et on voit qu'Emmanuel Macron n'est pas défait, qu'il tient la route. Donc, la bulle spéculative, elle n'existe pas, en fait.
Quand il arrive à Lyon, au début du mois de février, pour un autre grand meeting devant, une fois encore, des milliers de personnes, le maire de la ville, Gérard Collomb, l'un des premiers soutiens d'Emmanuel Macron, croit déjà que la victoire est possible.
Il y a encore 6 mois, personne ne pensait qu'un candidat progressiste puisse gagner l'élection présidentielle. Aujourd'hui, on est sûr qu'il va être au second tour et je crois qu'il va gagner l'élection présidentielle.
Après la victoire de Benoît Hamon à la primaire de la gauche, le match pour le second tour se joue plutôt à droite pour Emmanuel Macron, qui commence à concentrer ses attaques sur François Fillon et Marine Le Pen, tous deux empêtrés dans des affaires judiciaires.
Nous vivons un moment grave où les scandales chaque jour dévoilent les pratiques d'un autre âge, affaiblissent. Ne sifflez personne, s'il vous plaît, personne. Soyez grave dans ces moments. Parce que ce qui se passe dans notre vie politique et médiatique n'est bon pour personne. Parce que notre combat, c'est de tout faire pour que ce qui se passe ne bénéficie pas avant tout au parti du Front National.
En pleine ascension, Emmanuel Macron part en Algérie en quête d'une stature d'homme d'État. De l'autre côté de la Méditerranée, il envoie des messages à la communauté franco-algérienne et aux rapatriés.
Nous avons rendu hommage à M. Rojana en venant déposer une gerbe sur sa tombe. Pourquoi ? Parce que c'est un Français né en Algérie qui a quitté l'Algérie comme beaucoup d'autres et qui a décidé lui-même de venir se faire enterrer ici avec son père. Et cette décision intime, elle traduisait un engagement qui permet de signifier beaucoup plus qu'un engagement individuel, mais un symbole. La politique, ce sont des symboles aussi. Il ne faut jamais l'oublier.
La politique, c'est aussi des mots. Et ce qu'il prononce lors d'une interview sur une chaîne de télévision algérienne vont constituer sa première erreur dans une campagne jusque-là maîtrisée. Emmanuel Macron parle de crimes contre l'humanité en évoquant la colonisation. Son retour en France est agité quand il se rend à Toulon et Carpentras quelques jours plus tard pour parler de sécurité. Il trouve des pieds noirs en colère.
Moi, je suis pieds noirs. Oui. Et donc, d'entendre des choses comme ça, j'ai sauté en l'air.
Ce qu'il a dit en Algérie, c'est une vraie insulte.
C'est un ancien de la banque Rothschild. Il ne va pas parler pour les sordants, comme ils disent. Hein. Les sordants, c'est nous. Et nous, les sordants, on l'emmerde, lui. Parce que lui, quand il insulte la France, il n'était pas encore né. Alors qu'il respecte un peu le pays qui le nourrit et qui l'accueille.
Emmanuel Macron marche au ralenti jusqu'à ce que François Bayrou lui apporte une nouvelle dynamique.
J'ai décidé de faire à Emmanuel Macron une offre d'alliance.
Dans la série des ralliements, celui-ci a une valeur particulière. En renonçant à se présenter, le centriste dégage la route de l'Élysée pour Emmanuel Macron. En tandem avec le candidat à Reims, François Bayrou s'en explique.
Je suis là pour l'aider autant que je peux parce que j'ai une petite expérience de l'élection présidentielle.
Vous la sentez bien cette élection ?
Ouais, je pense que ça part très bien. Et avec cette proposition politique nouvelle, il y a quelque chose qui apporte aux gens un peu comme si on ouvrait la fenêtre. C'est très important d'ouvrir la fenêtre quand on étouffe.
Et ça fait plaisir à Brigitte Macron, l'épouse du candidat, présente elle aussi.
Vous trouvez que c'est une belle image, Madame Macron, François Bayrou et votre époux ?
Oui, je suis très contente de les voir tous les deux.
Bonjour.
Oui. C'est un homme de lettres. Hein. Quand les sciences humaines se retrouvent, c'est bon, c'est bien.
Ça, c'est une connivence qu'il y a entre eux, justement, cet amour de la littérature qu'on sent chez les
oui,
deux.
Oui, certainement. Moi, je la retrouve quand je suis dans leur conversation, je les entends tous les deux. Il y a quelque chose de très fort qu'ils partagent. C'est une des choses qui les rapproche le plus.
C'est une bonne image aussi pour la France.
Moi, je pense que c'est un positionnement politique qui a beaucoup de sens. Les gens en ont assez des logiques de parti. Je ne l'ai jamais ressenti aussi fort, parce que moi, je suis plus âgée que lui, donc j'ai traversé les périodes. Il ne faut pas s'interdire de faire quelque chose, parce qu'on est à droite ou à gauche.
Et est-ce qu'il a changé durant cette campagne ? Qu'est-ce que vous avez vu comme évolution de la transformation en candidat ?
Non, il ne change pas. Fondamentalement, il ne change pas, mais il a une carapace. Puis il y a beaucoup de ralliements. Il y a tout le temps quasiment des ralliements, d'autres gens qui arrivent. Il écoute beaucoup les gens.
Des gens qui arrivent de la droite, du centre, de la gauche et un soutien plus important que les autres, celui de Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense. Pour Olivier Roucan, cela contribue à la crédibilisation du candidat.
Ça envoie le signal que même sans parti politique, Emmanuel Macron pour la suite pourra former un gouvernement et aura les soutiens, les relais. Du fait de l'expérience des uns et des autres, dans l'appareil d'État, mais au-delà dans la société. Donc ça crédibilise sa démarche postérieure, une fois élu, pour gouverner.
Les sondages font désormais d'Emmanuel Macron un favori de l'élection présidentielle. Il devient la cible des attaques de tous ses adversaires, Le Pen, Fillon, Mélenchon, Hamon.
M. Macron, il ne défend pas les intérêts du peuple, il défend les intérêts des grandes puissances financières, il défend les intérêts des grandes banques.
Un gourou
issu du système qu'il dénonce aujourd'hui.
Et qui c'est qui a vendu Alcatel-Lucent, hein? Monsieur Macron, qui a privatisé ce qu'il restait de public dans Ariane Espace? Monsieur Macron, c'est vraiment beaucoup de mauvais coups pour un seul homme.
Aujourd'hui, je considère que le projet d'Emmanuel Macron, c'est le marchepied du Front National.
À Londres, devant une assemblée d'expatriés acquis à sa cause, Emmanuel Macron se rebiffe.
J'ai quitté donc, l'emploi que j'avais pour aller d'abord dans la sphère politique. J'ai ensuite, pour mener cette campagne, quitté le gouvernement. J'ai en plus de ça quitté la fonction publique. Et là, je suis en train de contracter un emprunt personnel pour achever de financer la campagne. Je le dis parce que je suis aujourd'hui le seul candidat dans l'élection présidentielle française à avoir pris ces risques.
Mais il prend aussi du recul.
Vous êtes passé depuis quelques semaines du statut d'outsider à celui de presque favori. Qu'est-ce que ça change dans votre campagne?
Ça ne change rien au quotidien. Je continue à aller sur le terrain, à expliquer, à convaincre. Je crois que ce qui compte, c'est la dynamique et il ne faut pas penser qu'un mois avant l'élection, quoi que ce soit puisse être acquis. Ça va simplement accroître la fébrilité de mes adversaires. Quand vous avez des dirigeants qui peuvent expliquer haut et fort que je suis devenu le marchepied du Front National, qui peuvent comparer En Marche avec les chambres à gaz, ou qui peuvent sortir des caricatures sur leur site internet ou leur Twitter avec une imagerie antisémite, ça vous montre que les Républicains et le Parti Socialiste ont perdu le Nord. Voilà ce que ça change. Quand vous devenez favori, ils deviennent agressifs. Donc il faudra s'habituer à cela. Chaque jour, il y aura des mauvais coups, des fausses rumeurs et de l'agressivité.
Des rumeurs sur sa vie privée notamment qui peuvent toucher son épouse. Emmanuel Macron, qui veut être le candidat de la parité, lui rend hommage lors d'une soirée organisée pour la journée des droits des femmes.
Brigitte, viens avec moi. Oui, viens.
Beaucoup ont eu des commentaires quand au début de cette campagne, Brigitte est apparue. La vie politique est très violente, très injuste, pour l'entourage en particulier. Ce qui est extrêmement important, c'est qu'elle continue à être là, à porter son regard. Et si demain je suis élu, eh bien, elle aura à ce moment-là ce rôle, cette place, cette exigence, pas cachée derrière, pas dissimulée, pas derrière ou un tweet ou une cachette ou autre. Elle l'aura à mes côtés, parce qu'elle a toujours été à mes côtés.
Du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous.
C'est Emmanuel Macron choisit la lumière pour son couple atypique et un peu people qui s'affiche souvent en couverture de Paris Match. Brigitte Macron joue le jeu de la campagne en gardant sa sérénité.
Il va y avoir un avant, un après, quoi qu'il arrive. Mais alors l'après, je ne peux pas vous dire ce qui sera. Mais je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'incertitudes.
Vous êtes consciente que rien n'est joué malgré
tout? C'est sûr, j'en suis certaine. Je pense que ça jouera dans les derniers jours. Mais c'est un feeling impressionniste. Mais lui, il se bat. Il est dans le combat. Donc il ne se pose pas de questions, il y va. C'est un combattant. Hein.
Un combattant qui s'est lancé à l'assaut de l'Élysée et qui s'est fixé un objectif supplémentaire, qu'explique Richard Ferrand, le secrétaire général d'En Marche.
L'objectif, c'est d'être en tête au sort du premier tour. Parce que nous ne pouvons pas nous satisfaire de l'hypothèse des sondages qui place Madame Le Pen en tête au premier tour. La France est d'abord un pays qui a des valeurs solides, des valeurs universelles et qui sont totalement à rebours de ce qu'incarne Madame Le Pen.
Devancer Marine Le Pen le 23 avril, la battre le 7 mai, c'est le but d'Emmanuel Macron. À Reims, la ville des sacres, il entame la dernière ligne droite de la campagne.
Nous n'avons aucune leçon à recevoir, ni de l'extrême droite, ni de la droite réactionnaire, mariée à la droite opportuniste, qui porte un projet d'enfermement. Ce que nous portons, ça n'est pas une identité figée ou fantasmée, c'est une volonté en marche.
En marche vers l'Élysée. Un grand reportage de Valérie Gasse à la réalisation Lorenzo Lacchesi.